Salut tout le monde, c'est Marie. L'épisode de Sologamy va bientôt commencer. Ce petit message, c'est juste pour vous informer que si vous souhaitez l'écouter directement en avant-première et sans publicité, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme réservée aux artistes et créatrices de contenu, par exemple de podcasts, comme moi. Pour un abonnement de 5€ par mois, vous soutenez mon travail et accédez à de nombreuses contreparties. Mon podcast Sologamy me demande plusieurs heures de travail par semaine. Ça fait déjà 4 ans que je travaille bénévolement pour produire tous les épisodes que vous écoutez gratuitement. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien financier pour continuer le podcast. Mon travail mérite une rémunération. Si vous en avez les moyens, rejoignez ma communauté Patreon à l'adresse suivante patreon.com/mariealbertfr. J'ai mis le lien dans la description du podcast. Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamy avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bienvenue dans Sologamy pour un épisode crossover avec le podcast Homo Swipiens. Sologamy, c'est le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne, tu le sais. Et Homo Swipiens, c'est le podcast d'une génération de swipers et swipeuses. Oui, tu sais, c'est eux qui utilisent les applications de rencontres. Anissa l'a créé en mai 2020. Et dans ce podcast, elle interroge dans chaque épisode une personne sur son expérience de Tinder, Adopte un mec, OK Cupid, etc. Et dans cet épisode crossover, je fête la Saint-Valentin des célibataires en parlant d'applications de rencontres avec Anissa. Et j'ai une expérience assez fournie sur ces plateformes. J'ai rencontré pas mal de joie et de déception, hein, surtout de déception comme toi, auditeuriste sûrement. Et j'espère que tu trouveras des points communs et des réflexions enrichissantes dans cet entretien croisé. Bonne écoute, mais moi je commence l'épisode en me présentant comme d'habitude. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Bonjour Anissa.
Bonjour Marie.
Comment tu te présentes et comment tu te définis, si c'est le cas, à nos auditeurices?
Alors, moi, c'est Anissa. Je me définis comme une personne cisgenre, hétérosexuelle. Je ne suis plus célibataire. J'ai jamais vraiment eu, en fait, de problème à me définir en tant que personne en couple ou célibataire. C'est-à-dire que, pour moi, avant d'être en couple ou célibataire, on est soi, quoi. Enfin, on est une personne avec ses propres intérêts, ses passions, son métier éventuellement, ses ambitions. Voilà, donc j'ai été longtemps en couple, pendant 5 ans, et c'est vrai que la relation amoureuse avait vraiment été au centre de ma vie et avait défini un peu... Enfin, j'avais eu l'impression que c'était que ça me remplissait en fait, en quelque sorte, que ça donnait un sens à mon existence, parce que j'ai toujours été une grande romantique, j'ai toujours idéalisé l'amour et j'ai toujours beaucoup réfléchi dessus. Mais voilà, enfin, j'ai eu une relation assez douloureuse, enfin surtout une rupture douloureuse. Et en fait, je me suis redéfinie en tant qu'individu et ça m'a fait beaucoup de bien.
Merci Anissa. Bon bah maintenant on va parler de célibat et d'appli de rencontre, c'est parti. Les garçons que je vois me demandent pourquoi je suis toute seule. C'est pourtant clair, leur mensonge me dérange. Je sais ce qu'ils me veulent. Et si l'un de s'approche, pour cela jouer face en donjon, je réponds en souriant. Moi je préfère rester.
À chaque fois dans tes intros, tu te définis en tant que personne blanche, cisgenre, mince et dépressive. Est-ce que tu pourrais me dire quelle place l'amour tient dans ta vie et la recherche de l'amour notamment ?
C'est important. Donc je me définis aussi comme pansexuelle et c'est une c'était quelque chose de très important puisque j'étais en couple de mes 17 ans à mes 25 ans, en couple hétérosexuel, et j'avais pas de pause entre les différents mecs. Et puis quand je suis devenue célibataire, voilà, j'ai essayé de retrouver à tout prix quelqu'un le plus vite possible. On en parlera après. Et en fait, c'est là que je me suis demandé, comme toi, est-ce que je suis un individu ? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un ? Est-ce que je suis hétérosexuelle ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être amoureuse ? Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment ? Et du coup, j'ai énormément souffert, j'ai eu des relations vraiment nazes et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas envie d'être en couple. Puisque manifestement, je me mettais toujours dans des relations pourries, donc c'est que peut-être inconsciemment, j'avais pas du tout envie d'être en couple. Et maintenant, j'essaie de me focaliser sur d'autres sources d'amour, puisque je me définis comme célibataire depuis 2 ans et demi, c'est pas énorme, mais ça pourrait continuer. Et du coup, j'essaie de me focaliser sur des sortes d'amour, l'amour de ma famille, de ma sœur, de mes amis. Voilà, c'est un peu ça ce à quoi je réfléchis.
Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est pour toi être pansexuel ?
Pour moi, être pansexuel, c'est être attiré sexuellement ou émotionnellement ou amoureusement par des personnes de tout genre. Et donc, ça se distingue un peu de bisexuel, parce que bisexuel, ça sous-entend qu'il n'y aurait que 2 genres, les hommes et les femmes, et qu'on est attiré par les 2. Et du coup, moi, j'essaye... Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est juste que je ressens les trucs. C'est que quand je suis attirée par quelqu'un, ça peut être... vraiment, c'est pas du tout le genre de la personne qui m'attire. Après, bon, c'est construit, donc il se trouve que j'ai toujours été plus attirée par les hommes. Mais voilà, je suis attirée par des personnes non-binaires, par des femmes, et du coup, pansexuelle, ça me va comme définition.
Et quel est ton rapport avec les applications de rencontres et comment, en fait, tu peux, toi, être pansexuelle, en fait, sur les applications de rencontres ? Comment les applications de rencontres, en fait, valorisent ce genre d'orientation sexuelle ? Et quel genre de personnes, en fait, tu rencontres sur les applications de rencontres ?
Sur les applications de rencontres, c'est vrai, par exemple, j'utilisais beaucoup OkCupid, et c'est vrai qu'il y a des paramètres pour montrer qu'on est pansexuel et choisir des personnes de tous les genres ou de certains genres. Donc c'est pas mal, c'est facile, mais après c'est facile quand on est à Paris. Genre là, j'habite à Alençon, il y a personne de non, il y a pas grand monde hors hommes cis sur les applications, et comme les hommes cis me dégoûtent, voilà. Et du coup, pour l'instant, j'arrive pas du tout à draguer d'autres personnes. Donc en fait, comme les hommes me dégoûtent et que j'arrive pas à draguer d'autres personnes parce que j'ai peur de ces personnes, en fait, je suis pansexuelle dans ma tête, mais sur les applications de rencontres, je ne rencontre personne. Et du coup, je pense que c'est tout à fait possible d'être pansexuelle sur les applis, mais moi, je suis vraiment au stade bébé, en mode « Oh, cette personne m'attire, mais j'ai trop peur qu'elle me mette un râteau ». Du coup, voilà, il ne se passe rien.
Et du coup, tes seules expériences pour l'instant, c'est avec des hommes cis. Ces mêmes hommes qui te dégoûtent, comme tu disais.
Non, j'ai eu plusieurs expériences avec des femmes, mais pas avec des femmes en l'occurrence, mais pas sur les applis de pas sur les applications de rencontre. Voilà. D'accord. Dans la vraie vie.
OK. Et pourquoi avoir créé un podcast sur le célibat? Est-ce que les applications de rencontre, ou en tout cas ton expérience des applications de rencontre, ont eu un rôle là-dedans?
Ouais, c'est clair. Enfin, en fait, j'ai fait un tour du monde en cargo. Et sur le cargo, j'avais pas internet. Du coup, je me suis posé plein de questions sur ce que je voulais faire de ma vie et tout. Et c'était l'époque où on écoutait déjà beaucoup de podcasts. Du coup, je me suis dit, je vais lancer un podcast qui va s'appeler Marie sans filtre sur mes expériences intimes et politiques, enfin, mes expériences féministes. Donc voilà, j'ai créé Marie sans filtre quand je suis revenue de mon voyage en cargo. Et après, j'ai mis genre un an, comme tu dis, je l'avais lancé en novembre 2020. Sologamy, j'ai mis un an à créer Sologamy parce que je me disais non, mais imagine, je me remets en couple, je serai plus du tout légitime pour faire un podcast sur les célibataires. Ou imagine, j'arrive à le vendre à un studio de podcast, je pourrais gagner de l'argent. Bon, dans la réalité, c'est hyper dur et enfin, c'est quasiment impossible. Donc je me suis dit au bout d'un moment, bon, je vais créer ce podcast, j'ai envie de le faire à ma sauce. Et puis c'était voilà, au moment où j'ai arrêté les applications de rencontre au début du premier confinement en mars 2020. Du coup, c'était au moment où j'en avais marre des applications de rencontre. Et forcément, si on peut pas rencontrer des gens dans la vraie vie, si on peut pas rencontrer des gens sur les applications de rencontre parce que j'ai désinstallé, en fait, avec le confinement, enfin, le célibat, tu vois, assez facile à tenir sur le long terme, quoi.
Voilà, du coup, t'as déjà répondu à ma prochaine question. Mais c'est vrai que le confinement a complètement changé notre perception de nous-mêmes et de nos relations, parce qu'on, même en tant que, enfin, avec nos amis, avec le travail, on a complètement digitalisé en fait tout notre rapport au monde. Et donc effectivement, les applications de rencontre, c'est le seul endroit quasiment, avec aussi les réseaux sociaux, de rencontrer des nouvelles personnes, en tout cas d'échanger avec de nouvelles personnes. Et le problème, enfin moi, le problème que j'y vois en tout cas, ou le défi que j'y vois, c'est que on est souvent confronté à sa propre image en fait, perpétuellement, et à l'image des autres et la façon dont les autres se mettent en scène sur les réseaux sociaux. J'ai cru comprendre dans tes stories et dans tes posts, etc., que pour toi c'est aussi une source de souffrance de te mettre en scène comme ça sur les réseaux sociaux. Quelle a été en fait comment tu as vécu cette année en confinement, et qu'est-ce que ça a changé en fait dans ton rapport aux applications et aux réseaux sociaux de manière générale?
En fait, ça a tout changé. Enfin, je sais pas toi comment ça s'est passé. T'as dit que t'étais plus célibataire. Je connais des personnes qui font des rencontres en confinement, mais c'est beaucoup plus difficile. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en mars 2020, j'en étais à un point où je me disais, allez, je vais arrêter d'être dépendante affective. Pareil, on en parlera peut-être après. Je vais arrêter de dater des mecs relous qui me ghostent, enfin, tu vois, qui me traitent mal. Donc, j'ai profité du confinement pour couper les ponts. Et genre, en mai-juin, il y a eu le déconfinement. Et je me suis dit... Enfin, tu vois, j'allais plus sur les applis, mais je me suis dit, je vais peut-être revoir tel ou tel mec. Et puis, en fait, dès le début, ça m'a saoulée. Du coup, là, cette fois-là, je suis allée plus loin. Je les ai tous bloqués parce que, tu sais, t'en as toujours une dizaine qui flotte sur ton WhatsApp et qui t'envoie un message tous les 15 jours, là. Du coup, je les ai tous bloqués en leur envoyant un message, genre, notre relation me convient pas, arrête de m'écrire. Et puis là, c'était en juin 2020. Et voilà, il ne s'est strictement rien passé. Je ne me rappelle plus de ta question. Mais bref, du coup, le confinement, ça a changé que j'ai arrêté de baiser le 15 mars 2020. Et que maintenant, on est presque un an après. Et que j'ai ma libido qui a disparu dans un autre monde. Mais voilà, de temps en temps, elle refait surface, genre comme hier soir, quand j'ovule et tout. Mais voilà, comme tu disais, on ne peut pas faire de rencontres. Enfin... faut porter masque, ou je sais pas, faut prendre des risques, ou puis voilà. Après, moi, c'est une bonne, en fait, c'est une bonne excuse, le confinement, mais c'était plus généralement que je déteste les hommes et que j'ai peur des autres personnes, voilà.
Mais comment ça, tu détestes les hommes? C'est-à-dire que tu les aimes aussi, j'imagine, puisque t'as été du coup en couple avec un homme pendant longtemps, ou avec une femme?
J'étais en couple avec trois hommes principalement. J'ai jamais été en couple avec une femme. Enfin, je déteste les hommes au sens féministe et politique, au sens dans leur entièreté, genre individuellement, mais aussi en nombre, ils font du mal à l'humanité et à la planète. et ils me font du mal à moi. Après, oui, j'aime certains hommes individuellement et je peux rencontrer quelqu'un de bien, mais genre vraiment, avant j'étais pas comme ça, tu vois. Avant, j'étais pas misandre, donc avant, c'était ok d'accepter leurs défauts. Maintenant, je suis en mode, mais je ne vois que leurs défauts, du coup, ça ne m'intéresse plus.
Et donc, du coup, pourquoi à ce moment-là continuer d'essayer de... Enfin, par exemple, quand t'es sur les applis, est-ce que tu mets que tu recherches des hommes aussi ou c'est fini? Enfin, ou c'est que uniquement des personnes non cisgenres hommes?
Bah, en fait, j'utilise plus les applis depuis mars, depuis mars 2020. Et du coup, je pense que si j'y allais aujourd'hui, ouais, je mettrais plus homme cis. Mais après, enfin, je sais que je suis dépendante affective et pour moi, c'est hyper facile de choper un mec, du coup, ce serait peut-être céder à la facilité. Je sais pas.
C'est-à-dire dépendante affective?
Bah, c'est-à-dire que je sais que je peux avoir mon shoot d'adrénaline et de tendresse et de... Enfin, voilà, qu'avec un homme cis, c'est facile à avoir sur les applis. Et que... Et par contre, qu'ensuite, je vais tomber amoureuse en 2 secondes, je dirais je t'aime le premier soir, t'es l'homme de ma vie. Et bah du coup c'est à la fois un piège parce qu'après je souffre vu que le mec me ghost et en même temps c'est un petit peu ma drogue, tu vois, les marques d'affection fausses.
Mais donc du coup là quand même t'as fait un travail sur toi, j'imagine, puisque tu me dis que depuis quasiment le premier confinement t'as pas eu d'aventure, donc c'est en quelque sorte une sorte, c'est assez thérapeutique. Et peut-être, enfin, est-ce que t'as identifié la raison pour laquelle t'étais dépendante affective et pourquoi tu réagissais comme ça, en fait? Parce que souvent quand tu dis que tu t'amouraches d'une personne que tu connais pas, c'est souvent ça a à voir avec toi et certainement pas avec la personne en face de toi.
Ouais, bah ça j'ai vraiment découvert dans les livres de Liv Strömquist, qui est une dessinatrice suédoise. Et j'ai fait des vidéos YouTube sur ma chaîne à ce propos parce que du coup j'ai découvert plein de trucs. Et à un moment elle parle de ça, elle parle du fait des femmes qui tombent amoureuses de mecs qui ne sont pas disponibles émotionnellement, qui sont pas qui s'engagent pas, qui la ghost, qui la traite mal. Et moi avant je me disais mais j'ai pas de chance, je tombe que sur des connards. Et Liv Strömquist, elle dit bah non, en fait peut-être que t'as juste pas envie d'être en couple parce que tu sais que bah que tu tiens ta liberté, que t'as envie de faire des trucs seul et tout. Et après, la dépendance affective, c'est autre chose. Ça va avec ma dépression, mes troubles anxieux. C'est-à-dire que bah d'un côté, je dis « Ah, j'ai envie d'être seule et bien », mais d'un autre côté, je sais pas, j'ai un trou à l'intérieur de moi qui fait qu'il se remplit que avec l'amour ou le faux amour des hommes, en l'occurrence. Mais je pourrais être dépendance affective avec d'autres personnes. Hein. Et ça vient de toute la culture... toute la culture patriarcale, du fait que depuis que je suis toute petite, on me dit de toute façon tu vas être heureuse quand tu vas rencontrer l'amour de ta vie, le prince charmant, tu vas te marier, tu vas avoir des bébés, et genre dans tous les films c'est comme ça. Et en gros, si t'es seule, bah en fait t'es juste acariâtre et malheureuse, quoi.
Et est-ce que toi tu t'es heureuse en ce moment, ou qu'est-ce qui te rend heureuse en tout cas?
Bah en fait j'ai arrêté de chercher le bonheur parce que bah comme je suis dépressive, je pense que j'ai pas été heureuse depuis que je suis enfant. Moi, je cherche juste la sérénité, en fait. Moi, comme j'ai des troubles anxieux, que je suis dépendante affective, que c'est les montagnes russes, des fois que je me dis je suis bipolaire, enfin voilà. Un jour ça va, un jour je suis trop contente, ma vie est une réussite, un jour je suis une merde. Et du coup, bah maintenant je me dis juste le bonheur c'est tellement bidon. Genre, faudrait être tout le temps contente de vivre. Enfin, moi, le matin quand je me lève, des fois je suis contente, des fois je suis pas contente. Et la sérénité via la méditation, le yoga, c'est le seul truc qui m'apporte un peu de calme. Enfin, tu vois, des fois, je me pose et je me dis, ok, la vie, ça peut être simple, ça peut être juste respirer, manger, dormir. Voilà, j'essaie de miser sur ça, quoi.
Moi, je préfère rester toute seule.
Qu'est-ce que tu recherches, en fait, tu vois, quand tu matches avec quelqu'un ou quand tu swipes? Est-ce que c'est ta propre image, ta propre réflexion, ou est-ce que c'est vraiment, t'as vraiment envie de faire une rencontre? Et à partir du moment où t'as des photos, t'as un profil, t'as une bio, avant de vraiment sentir l'énergie de la personne, ouais, c'est assez, assez spécial.
Ouais, moi, avant, je matchais que des mecs sur les applis de rencontre. Ils se ressemblaient tous. Ils avaient tous le même taf. Enfin, j'exagère, mais voilà, ils habitaient tous au même endroit. Ils avaient tous le même âge. Ils avaient tous le même background. Mais même pas que ça, en fait. Ils avaient juste tous la même façon de parler. Et c'est... Après, peut-être dans la vie, les mecs que j'ai choisis, ils n'étaient pas non plus hyper différents de moi, hein, mais... Ouais, quand tu swipes sur l'application de rencontre, là, déjà, je fais un tri totalement raciste et grossophobe, validiste. En fait, je prends que des mecs qui me renvoient une bonne image de moi et qui me rappellent des mecs que j'ai déjà daté avant.
Ouais, mais c'est... Et du coup, ouais, ça... Bonne transition pour ma question. Donc, je te disais que les applis, ça pouvait être un outil de libération, c'est-à-dire que plein de personnes qui, normalement, par exemple, les homosexuels qui pouvaient se rencontrer que dans certains endroits, en ville, etc., pouvaient se rencontrer de manière complètement différente, et ça a complètement révolutionné la géographie, en fait, pour certaines personnes. Mais ça peut être aussi un outil d'enfermement, c'est-à-dire que on correspond à son propre stéréotype et on match un stéréotype qui nous correspond, comme tu dis, là, validiste, etc. Donc pour toi, les applis, est-ce que c'est un outil de libération sexuelle ou ça enferme dans des schémas déjà préétablis et préexistants?
Ouais, les deux. Enfin, en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. Et par exemple, ma meilleure amie, elle est vraiment beaucoup moins difficile que moi, je sais pas comment dire. Elle sélectionne beaucoup plus large, elle parle avec plein de mecs. Forcément, il y en a qu'elle prend pas parce qu'ils lui plaisent pas, ou voilà, il y a peut-être aussi du validisme, la grossophobie et tout. Mais quand même, elle m'a l'air d'être beaucoup plus de mecs différents et qui correspondent pas à la norme. Et du coup, elle trouve beaucoup plus son compte, elle tombe sur des perles des fois. Enfin voilà, elle va au-delà de l'apparence. Et elle leur parle longtemps, quoi. Donc, c'est pas genre, il dit un truc bof dans la conversation, pas très sympa, elle le bloque, comme moi je fais. Elle est vraiment plus ouverte et tolérante. Et moi, ce que j'avais fait sur les applications de rencontre, c'est que je me suis dit, bah ok, je vais m'en servir comme un truc de libération sexuelle. Donc, je vais mettre... Enfin, moi, j'adore le sexe, donc je vais mettre... je voudrais un cunnilingus. Et si vous n'avez pas lu ce livre, c'est pas la peine de me parler. Et le livre, c'était Jouissance Club, de June Plat. Et du coup, t'as... j'en parle dans une de mes vidéos YouTube, il y a plein... Et tous les mecs qui m'écrivaient, ils m'écrivaient. Ah, mais moi, j'adore faire des cunnilingus. Et genre, quand je les ai rencontrés après, effectivement, ils voulaient me faire des cunnilingus, mais ça veut pas dire qu'ils savent bien les faire. Genre, c'était vraiment genre, ok, ils aiment ça, mais vraiment, enfin, il y a aussi la question qu'on se connaissait pas avant, mais vraiment, ils sont pas doués. Et puis, enfin, genre, il y a toute l'éducation à faire, enfin, voilà, je pense, ça peut être utile, enfin voilà, pour répondre à ta question, c'est un peu les deux. Enfin, je sais pas ce que t'en penses.
Écoute, moi je pense que effectivement, si t'as envie d'essayer des choses, enfin moi je sais qu'à un moment donné j'étais intéressée par le BDSM et donc du coup c'est vrai que les applications ont permis me permettaient en fait d'être initiée à ce monde-là. Alors après j'habite à Berlin, donc c'est quand même une ville où il y a plein de, enfin il y a plein de possibilités. Il suffit que t'ailles dans un club ou telle soirée et c'est, tu peux te faire initier assez rapidement, mais c'est vrai que enfin t'as ce côté là en fait où tu peux vraiment explorer des choses je me suis souvent, enfin c'est aussi, tu connais pas la personne en face de toi, et par exemple pour des pratiques comme le BDSM où t'as besoin d'avoir énormément confiance en la personne, ça peut être assez dangereux, dangereux dans le sens où tu peux vite perdre le contrôle de ton image, ce qui m'est arrivé parce que j'étais complètement tarée, de l'autre côté, quand tu vas sur quand c'est plus genre pour avoir un date, pour moi c'est tu reproduis quand même des schémas qui, enfin déjà moi qui me correspondent pas. Dans la vie, je me suis jamais vraiment fait conquérir, enfin j'ai toujours été plus celle qui prenait les initiatives et j'ai jamais vraiment eu de date en tant que telle, c'est-à-dire que moi souvent mes relations sérieuses en tout cas ça commençait par des amitiés ou c'était des gens que je connaissais bien et au fur et à mesure voilà ça s'est fait, Et ce que j'ai découvert en fait avec avec les applications de rencontre, c'est que ça me forçait dans un schéma qui ne me correspondait pas. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très extraverti, qui fait la conversation, qui est intéressé par les gens. Et donc du coup, quand je rencontre un mec via une appli et que je suis sympa, forcément, je veux passer un bon moment. J'ai pas envie de passer un moment horrible. Et donc du coup, j'ai l'impression, enfin tout le temps, j'en ai pas fait beaucoup des dates via les applications, mais les quatre fois où j'en ai fait, le mec a toujours essayé de m'embrasser à la fin du date, alors que j'avais pas forcément donné l'impression d'avoir une connexion particulière ou sexuelle ou voilà. Sauf que je pense que le fait d'être dans le cadre du date, le mec se met la presse en se disant « Ok, il faut que je l'embrasse maintenant, il faut qu'il se passe un truc maintenant, sinon je vais plus jamais la revoir, etc. » Enfin, ce truc un peu de mec conquérant qui doit absolument remplir son but, tu vois. Enfin, et ça me dérange, moi, énormément, parce que du coup, ça me gêne, en fait. Je me dis « Mais attends, mais j'ai renvoyé quoi comme image ? Pourquoi la personne se permet, en fait, de m'embrasser alors que je lui ai pas du tout donné les signaux pour ? » Enfin, il y a un mec qui m'a carrément, enfin, moi, je dis toujours « violé de la bouche », mais c'est le cas. Enfin, il y a un mec, il m'a, enfin, on discutait et bon, je me suis dit bon, il est sympa, mais sans plus, peut-être qu'on pourra se revoir. Et on marchait dans la rue, je le regardais même pas, et d'un coup il me saute dessus, il m'embrasse sans me demander mon avis, enfin tu vois. Et donc j'ai eu ce débat avec mes copines: est-ce que il faut que le mec te demande la permission avant de t'embrasser, etc., etc.? Est-ce que il faut qu'il te demande ton consentement avant de t'embrasser? Dans certaines situations, quand tu vois que la personne, elle te regarde pas forcément, que elle est pas forcément dans ce mood-là, oui, tu demandes. Après, non, je dis pas, si tu te regardes, t'as un regard intense et que tu sens que ça passe, voilà. Mais à ce moment-là, ça m'avait choqué, en fait, et je me suis dit, mais j'ai plus envie de faire de date, parce que si c'est pour à chaque fois me retrouver dans des situations gênantes où le mec me fourre sa langue dans ma bouche sans que je le veuille, et ensuite, tu vois, le pire, c'est que moi, du coup, ça me gêne. À chaque fois, je leur dis, mais les mecs, pourquoi vous faites ça à chaque fois? Et tu vois, je suis gentille, je suis même pas vénère, alors que normalement, je suis quelqu'un d'assez, pas agressive, mais c'est-à-dire que je me laisse pas trop faire. Mais dans ces cas-là, je me retrouve dans cette position, en fait, un peu de la meuf, tu vois, enfin, comme on le voit, en tout cas, pas de la meuf, mais dans ce qu'on s'imagine de ce que sont les relations hétérosexuelles dans le cadre d'un date. Donc voilà, moi, ça, j'aime pas ça.
Du coup, moi, je voulais, j'ai dans l'idée de poster cet épisode le 14 février, la Saint-Valentin. Du coup, ma première question, c'était: est-ce que la Saint-Valentin existe encore? Genre, vraiment, genre, j'ai l'impression que dans un monde parallèle au mien, c'est vraiment important. Bon, là, on est en confinement, en coronavirus, tout le monde s'en fout peut-être. Mais il paraît que la Saint-Valentin a encore un sens. Donc, ma question, c'est... Enfin, je sais que tu n'es pas célibataire, mais peu importe, je la pose car je n'ai pas la réponse. Comment on fait la Saint-Valentin quand on est célibataire?
Eh ben écoute, je peux te répondre. On l'a fait avec ses potes. Moi, j'ai été célibataire pendant super longtemps, pendant 3 ans et demi. Et pour moi, ça a jamais été une pression ou un poids ou quelque chose à fêter ou à pas fêter. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était un jour comme un autre. Je suis entourée de personnes qui n'ont aucune qui s'en foutent complètement de la Saint-Valentin, mais depuis toujours, hein, enfin que ce soit en France, à Berlin, n'importe où. J'ai jamais senti, en fait, cette pression. Si tu veux, la pression, elle est dans le marketing, elle est dans la publicité, dans la société de consommation. Mais quand tu te détaches un peu de ces choses-là, c'est pas, enfin, quand tu sais que c'est comme Instagram, hein, tu choisis de suivre les personnes qui t'intéressent, et c'est-à-dire que, bah, le jour de la Saint-Valentin, tu vas pas forcément avoir ce genre de, tu vois, de choses qui vont te, comment tu dis, qui vont t'oppresser, en fait, et qui vont te dire: merde, je suis en train de rater quelque chose, merde, ça me renvoie à ma condition de célibataire, je vais déprimer ou je vais me bourrer la gueule pour oublier. Non, enfin, je pense que c'est un truc qui est en train, enfin, en tout cas, peut-être dans ma bulle, moi, je vis peut-être dans une bulle aussi, mais ça m'a jamais, même quand j'étais plus jeune, ça a jamais été une thématique. Et je crois que même quand j'étais en couple, j'ai jamais fêté la Saint-Valentin avec mes mecs. Parce que j'avais des mecs qui s'en foutaient aussi, donc voilà. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais...
Ouais, ça me fait penser à quand j'étais en tour du monde en cargo, je me suis arrêtée en Chine, et le 14 février, j'étais avec des meufs chinoises que j'avais rencontrées à l'auberge de jeunesse, et on était dans un petit boui-boui à manger des plats chinois, des nouilles ou je sais pas quoi. Et genre, on parlait de ça, de la Saint-Valentin. On était trop contents d'être ensemble. Tu vois, genre, c'est trop improbable comme Saint-Valentin. Et genre, les meufs, elles s'est jamais sorties avec personne. Enfin, elles n'ont jamais pécho personne de leur vie. Alors qu'on avait le même âge. Enfin, voilà, c'était trop intéressant.
T'avais quel âge?
Moi, j'avais genre 24 ans. Et enfin, il y a plein de gens en France aussi qui pêchent aux personnes avant 30 ans, hein, mais ou même toute leur vie. Mais je veux dire, en Chine, c'est vraiment tu es célibataire jusqu'au mariage, peut-être, je sais pas. C'est vraiment caricatural et raciste. Je pense pas que c'est vrai, mais en tout cas pour ces meufs-là, elles avaient jamais pêché, et du coup c'était intéressant d'en parler.
Qu'est-ce qu'elles disaient ?
Bah qu'elles étaient genre. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais qu'elles avaient jamais fêté la Saint-Valentin, qu'elles avaient jamais fait chaud personne, qu'elles étaient timides, qu'elles savaient pas comment faire. Après, il y en avait une qui était plus dégourdie, donc je pense que... Enfin... Mais je me rappelle surtout d'une qui était genre trop gênée parce que je parlais de mec ou de sexe, je sais plus. C'était marrant. Bon, après, elle parlait mal anglais et je parlais pas chinois, donc c'était pas non plus... Ça volait pas très loin. Voilà. Non, mais la Saint-Valentin, voilà, pareil, j'en ai rien à faire, mais dans un autre pays, des fois, ça peut, voilà. En Chine, ça avait peut-être plus d'importance, je sais pas.
Mais en Chine, ils fêtent la Saint-Valentin, enfin, c'est quelque chose de très américain, non? Enfin, de très, société de enfin, c'est, ça a des origines, en plus, plutôt, païennes, judéo-chrétiennes, plutôt que...
Non, je pense que c'est juste parce que, comme tu dis, en France, je suis entourée de personnes qui n'en ont rien à faire. Et en Chine, le seul point commun qu'on avait, c'est qu'on savait que c'était Valentine's Day. Mais oui, et du coup, moi, je leur ai dit, vas-y, on en profite pour aller au resto. Et c'était en mode, ah, c'est trop drôle comme idée. Mais en fait, on s'en foutait, je pense. Mais je pense qu'il y a des gens qui fêtent en Chine, hein. Comme en France, en fait. Du coup, après, il y avait la dépendance affective. On en a déjà parlé. Toi, ça te parle, la dépendance affective, ou non, t'es pas...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
J'ai souvent... Enfin, moi, j'ai pas eu des... Quand j'étais en couple, c'était longtemps. en général. J'ai pas, je suis pas le genre de personne à enchaîner les relations. Je suis souvent, enfin, en gros, j'ai des longues relations et ensuite je suis célibataire longtemps. J'ai été dépendante affective de mon ex, je pense, parce que j'étais, bon, c'était un quelqu'un de narcissique. Et on était jeunes et je pense qu'on n'avait pas trop idée des tenants et des aboutissants de l'amour et on pensait qu'on était les âmes sœurs et qu'on allait vivre ensemble jusqu'à la mort et faire des enfants, etc. Donc on s'est un peu raconté des histoires et bon, de ce moment-là, en fait, est née aussi ma conscience féministe. Où je me suis rendu compte que je pensais que j'étais une personne très forte, très indépendante, et que en fait je me retrouvais dans un schéma complètement de relations hétéro-normées où la femme se sacrifie pour son homme qui lui suit ses ambitions, devient quelqu'un qui en fait ne donne pas beaucoup pour la relation et se nourrit en fait de la relation pour pouvoir briller et pour pouvoir pour pouvoir évoluer en fait en tant qu'individu et voilà, et tant mieux pour lui, c'est quelqu'un de très très talentueux, mais donc j'ai fait face à ces problématiques et c'est vrai que oui, j'étais dans une dépendance affective vis-à-vis de lui et par rapport à l'amour qu'il me donnait. Après, je pense qu'on a tous été toutes plus ou moins été confrontés à ce genre de relation pour justement voilà évoluer. Maintenant, je pense que ces 3 ans et demi de célibat m'ont fait énormément de bien, m'ont permis d'évoluer de manière indépendante, même si ça a été très difficile au début, puisque j'étais encore, j'ai mis du temps à m'en remettre. Et donc, c'est vrai que j'ai arrêté complètement de dater, ou même comme tu disais toi tout à l'heure, j'ai eu un peu un moment de misandrie où je me disais que que les hommes c'était foutu, qu'ils n'étaient pas assez déconstruits. Et que c'était extrêmement difficile de trouver un amour équilibré et débarrasser un peu de toutes ces injonctions et de toutes les choses qu'on a intégrées en fait même inconsciemment. Mais j'ai eu de la chance, je pense. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait un chemin un peu similaire au mien dans le sens inverse, enfin du côté masculin du coup, et qui a eu pris le temps en fait de se remettre en question et qui était prêt en fait c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés au bon moment, voilà, ça, à tous et toutes, c'est quand on s'y attend le moins que ça arrive, et c'est surtout quand on a fait un chemin en soi, et qu'on a appris vraiment à s'aimer, et à être vraiment indépendant, et à vraiment se focaliser sur soi, et sur ses centres d'intérêt, que ça arrive, et cette personne, ouais, elle est arrivée dans ma vie, il y a pas longtemps, mais c'est une bonne surprise et j'ai l'impression que voilà, c'est pas quelqu'un qui est avoidant, tu sais, t'as ce côté comment tu dis en français, tu l'avais dit tout à l'heure, pas unavailable, comment tu dis en français,
indisponible.
Indisponible, voilà. Où tu vois, t'as besoin de jeu en fait. Pour moi, l'amour, c'est pas un jeu, c'est pas un truc genre quand est-ce que je vais lui envoyer un message, attends, non, mais là ça fait 3 jours, etc., etc. Non, y a pas à construire le désir en fait. Tu es désirable à partir du moment où tu es sûr de toi, où tu t'aimes. Mais après, pour moi, ce qui compte, c'est la communication, l'honnêteté. Et toutes mes relations, même ma relation avec mon ex, ça a été très fulgurant, parce qu'on était on était dans de la réciprocité, et on n'était pas là à faire genre qu'on s'en foutait l'un de l'autre, ou à ne plus s'écrire pendant des jours pour pouvoir cultiver le désir. Non, enfin, la communication, c'est la chose clé dans une relation qui fonctionne. Et le désir, il est là et il se cultive ensemble. Et il se cultive pas par des jeux débiles de je te fuis, moi je te suis, si moi je te fuis. C'est pas ça l'amour. Ça c'est un jeu. Ça c'est des jeux. Ça c'est de la passion éventuellement. C'est des jeux. Mais c'est pour moi c'est l'adolescence de l'amour en fait. Voilà.
Et du coup, tu l'as rencontré sur les applis rencontres pour coller à notre épisode ou pas du tout?
Alors. Indirectement, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai arrêté les applis pendant tout le confinement, pareil que toi, j'avais plus du tout d'intérêt en fait. j'étais dans une phase en fait où j'avais pas envie de, j'avais pas de libido, où j'étais focalisée sur mon podcast et sur d'autres choses, sur mes amis, enfin voilà. Et j'avais même toutes mes relations que j'avais en dehors des applications, j'ai complètement arrêté. Donc j'ai vraiment eu un espèce de période de célibat mais choisi. Et donc du coup j'ai vécu cette période de manière assez sereine et profonde. Et le deuxième confinement arrivant, je me suis dit bon, là j'aimerais bien, tu vois, un petit truc, là là là. Donc je me suis remise sur les applis, mais en mode genre ultra productivité, tu vois. Je me mettais genre une heure par jour. Je me disais ok, là tu swipe, t'écris. Et tu vois ce qui se passe. Alors j'ai rencontré que deux mecs dans ce cadre-là. Mais entre temps, il y a, tu sais, sur OkCupid, tu peux écrire des intros sans matcher avec la personne. Et donc à ce moment-là, avec ma copine, avec une de mes potes, on voulait faire un tatou. Et on n'a pas de sous toutes les deux, donc on n'a pas contacté des studios, rien du tout. Et t'as ce mec avec le profil Tattoo for Free qui m'écrit et qui me dit salut, j'ai l'impression que tu n'as pas de tatou, mais peut-être que tu en voudras. Et j'en avais, mais bref. Est-ce que donc voilà, moi je me lance dans le, je suis un tattoo artiste et j'aimerais pouvoir développer mon portfolio pour pouvoir ensuite postuler à des studios, et donc je peux te faire des tatouages à un prix raisonnable. Et du coup j'en ai parlé à ma pote, je lui dis vas-y, est-ce que je lui écris, etc. Bon, au début je me dis c'est quoi cette histoire, tu vois, c'est qui ce mec chelou. Et il n'avait pas de photos, enfin tu vois, il avait juste des photos de son appartement avec un espèce de studio puis quelques modèles de tatou. Et donc du coup je lui écris, je lui dis vas-y, ok, pourquoi pas, est-ce que tu peux m'envoyer des modèles, enfin voilà. Donc du coup on prend rendez-vous comme ça avec ma pote. Finalement avec ma pote on annule, et puis à un moment donné j'avais même oublié, tu vois, qu'il y avait ce truc de tatou. Et finalement j'y vais quand même, tu vois, je me dis bon allez vas-y, ça va être le confinement, je me fais chier, ça peut être drôle de me faire un tatou, voilà. Donc je vais chez ce mec sans aucune attente et même avec un peu limite de l'appréhension, dans le sens où qui c'est ce gars, tu vois, genre ce gros hippie qui fait des tatous, enfin qui propose de faire des tatous sur OkCupid. Je savais pas trop dans quoi je me lançais, mais vraiment aucune attente en termes romantiques. C'était vraiment j'avais vraiment une mauvaise image, en fait, pas une mauvaise image de lui, mais une mauvaise, enfin je sais pas, je m'imaginais qu'il était vieux, moche, que c'était un prof de yoga, et je sais pas, j'avais une très très mauvaise image de cette personne. Et donc j'arrive, j'étais pas douchée, je crois que j'étais habillée mais comme un sac, enfin limite en pyjama, j'étais mais vraiment pas du tout apprêtée. Donc je me retrouve, j'ouvre la porte et je vois ce gars grand, sexy, et là j'étais là waouh, et je me dis merde, à quoi je ressemble, pourquoi je me suis pas fait un effort, tu vois. Mais j'avais des cheveux trop gras, enfin j'étais vraiment dans un, enfin voilà. Et en fait on a pas mal discuté et on a accroché immédiatement, et ça a été très intense, enfin ça a été très intense, c'est-à-dire qu'on a fait le tatou, etc., mais au-delà de ça, enfin c'était je pense un coup de foudre. Et du coup on s'est revus, on s'est daté, enfin parce qu'il était il est italien, et il était chef aussi, enfin il sait bien faire à manger. Donc du coup je lui ai envoyé un message, je lui dis vas-y, tu m'invites pour un dîner, cuisine-moi une de tes spécialités. Et en fait ce qui était intéressant dans cette rencontre, c'est qu'il avait un problème, enfin il n'arrivait pas à bander parce qu'il avait un problème à l'aine, enfin en gros il s'était blessé en faisant un déménagement, et il m'expliquait qu'il n'arrivait pas à... qu'en ce moment il avait un problème, et donc du coup il cherchait vraiment que des relations qui ont du sens en fait, et que le sexe pour le sexe c'était quelque chose qu'il avait beaucoup fait dans sa vie et que ça l'intéressait plus. Et en fait notre premier date, on n'a pas couché ensemble, ce qui je pense ne m'est jamais arrivé dans ma vie, et c'était assez, et du coup il s'est complètement focalisé sur mon plaisir, et j'étais complètement waouh, enfin j'étais là, je disais mais c'est merveilleux. Je suis amoureuse, ça y est. Et voilà, et de fil en aiguille, ça s'est passé très vite. Alors maintenant, je pense que c'est le confinement qui a aussi aidé, parce que on n'a pas nos vies de manière. Enfin, tu vois, moi, je suis quand même très occupée de manière générale. Je sors pas mal et j'ai plein d'activités. Et le fait d'avoir du temps en fait pour soi et pour l'autre, ça aide, ça facilite. Je pense que ça accélère les relations naissantes, en tout cas ça les accélère. Et c'est quelqu'un qui est pas du tout dans le jeu, et qui est très qui est très disponible en fait émotionnellement, sans pour autant être un gros contrôlant ou très oppressant. Je pense qu'on s'est trouvé à des moments de nos vies où on était bien dans notre peau et où on avait tous les deux nos projets. Et donc du coup voilà, donc oui, je l'ai rencontré via une app, mais pas pour dater. Donc voilà, c'est rigolo.
C'est magnifique comme histoire, c'est vraiment un conte de fées, je pense qu'il faut faire un film. Genre je l'écoutais, j'étais en mode ah, je suis trop amoureuse.
Mais c'est, tu sais, les rencontres elles se
c'est
passent
c'est toujours comme ça la vie, hein.
Bah oui, les rencontres elles se passent quand tu attends le moins, et c'est pour ça que moi j'ai jamais été une grande fan des applications de rencontres, parce qu'à partir du moment où tu mets une intention ou t'as une attente, t'es souvent bah déçue, puisque tu y vas pour dater, et ça, moi ça m'a jamais correspondu. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent mais non, tu t'en fous, il faut pas avoir d'attente, etc. Mais forcément t'as une attente, puisque tu vas pas te faire, enfin t'es pas là pour te faire des potes en fait. Donc je pense que pour moi ça a tout changé en fait, le fait d'aller voir un mec pour autre chose que dater, bon, même si c'était via une application de rencontre, ça a complètement, tu vois, comme je te disais, j'étais pas du tout apprêtée, j'étais pas du tout préparée psychologiquement, enfin limite j'avais la flemme d'y aller, enfin je m'en foutais, enfin c'était aucune attente, et je me suis laissée surprendre complètement, et c'est pour ça que oui, c'est comme dans la vie quoi, quand tu rencontres quelqu'un sans t'y attendre, bon voilà, c'est ça la vie, c'est ça, l'amour ça te tombe dessus, je pense. Un peu difficile en ce moment, mais
les applications de rencontre ne te conviennent pas, mais tu as un podcast sur les applications de rencontre.
En fait, j'ai si tu veux, ça m'intéresse beaucoup comme phénomène, les applications de rencontre, parce que moi je m'y suis mise il y a pas longtemps, il y a un an, j'ai eu l'idée de podcast il y a un an. Parce que en fait je me disais waouh, en fait tu projettes vachement sur des attentes sur des profils que tu ne connais pas et donc qui peuvent t'offrir tous les possibles soi-disant. Et au début, je me souviens quand j'ai commencé à mettre sur OkCupid, parce que j'avais essayé Tinder mais ça m'avait pas du tout correspondu, et je me suis mise sur OkCupid, qui est une application qui est un peu plus fun, je trouve, enfin qui me correspondait moi en tout cas plus, et je trouvais que les gens étaient assez cool. Et quand j'ai commencé à avoir tous ces gens qui m'écrivaient, toutes les conversations intéressantes que j'avais, j'étais là, je me disais waouh, mais c'est génial en fait, je peux avoir un date tous les soirs avec des mecs différents et ils sont tous trop intéressants, et mon dieu, tu vois, enfin, et j'étais complètement dépassée en fait par c'était vraiment des shots d'adrénaline, voilà. Et en fait, je me suis mise à rencontrer des gars qui, bon, ressemblaient pas forcément à leurs photos, mais qui m'ont quand même surprise, tu vois. J'ai quand même dit, ah ouais, tu vois, ce mec, je l'aurais peut-être pas rencontré. Enfin, je l'aurais peut-être pas parlé si on s'était rencontré en soirée, ou j'aurais pas peut-être pris le temps d'apprendre à le connaître, etc., etc. Et donc, du coup, je me suis dit, waouh. Après, tu vois, t'as toutes ces questions-là des attentes. Enfin, moi, effectivement, j'avais aucune attente. J'étais là en mode, bon... si j'avais envie de baiser en fait, c'était ça mon attente principale, mais forcément j'avais aussi envie de connecter, tu vois, j'avais envie de connecter avec une personne et d'avoir un sexe potable, ce qui est quand même pas souvent, enfin ce qui est plus difficile pour les femmes que pour les hommes, mais effectivement, tu vois, il y avait tous ces trucs, donc qu'est-ce que t'attends, à quel moment, tu vois, on dit qu'on s'engage, est-ce qu'on s'engage, est-ce que t'es là pour rechercher une relation, et donc du coup t'as tout ce truc, tu sais, cette différence soi-disant entre les femmes qui recherchent une relation sérieuse et les hommes qui recherchent que du sexe, et donc tu vois tout via les applications, via la façon dont tu te définis et dont tu te présentes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la réalité et comment ensuite tes attentes, elles sont souvent déçues ou tu te lasses assez rapidement. Enfin voilà, moi, c'est m'est arrivé avec un mec, on s'est daté pendant un voire deux mois et on rigolait trop, enfin c'était trop rigolo et tout, et puis d'un coup, paf, la connexion elle a disparu. Mais parce que je pense qu'on était tous les deux dans un truc où on faisait des efforts, tu vois, où on essayait un peu de, tu vois, de, ok, on avait un peu envie d'avoir un plan cul, quoi, ou un plan cul amélioré. Mais à partir d'un certain moment où tu sais où tu te connais un peu, bah la magie disparaît parce que tu fais plus l'effort de voilà. Et donc j'étais complètement fascinée par ça en fait, par ce fait de se rencontrer avant de vraiment se rencontrer et de déterminer tes attentes avant de rencontrer la personne. Et c'est pour ça que j'ai fait un podcast sur les applications de rencontre. C'est plus par rapport au fait que ça challenge notre rapport à l'amour et ça le redéfinit complètement et surtout que ça nous met encore plus au centre de la relation puisque c'est nous qui nous présentons avant de rencontrer l'autre. Je sais pas ce que tu penses de tout ça et toi dans quelle mesure en fait ça a influencé ta vision de l'amour.
Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. En plus, j'ai toujours ce mythe dans ma tête de gens qui ont rencontré l'amour de leur vie ou juste l'amour passager sur les applications de rencontre, alors que moi, vraiment, j'ai rencontré que des histoires de merde. Et du coup, pour enchaîner, je trouve que sur les applications de rencontre, tu vas me dire ce que t'en penses, mais il y a ce truc où t'es obligé de parler au début. Et du coup, bah, enfin, en tout cas, moi, je parle pour savoir si j'ai vraiment envie de voir la personne après. Et du coup, je suis dépendante affective, donc on crée une espèce de relation assez forte, on se parle tous les jours, on passe sur WhatsApp, on s'envoie des photos, on s'appelle au téléphone, blablabla, on apprend à se connaître. Et en fait, du coup, ça, on s'investit, les deux personnes s'investissent dans la relation, alors que quand tu rencontres un mec en soirée et que tu baises avec lui, bah, tu connais pas la personne. Du coup, on s'investit et après, on va se voir. Je parle de, en l'occurrence, de trucs hétéros. On va se voir, on va baiser. Et là, du jour au lendemain, le mec disparaît, gosse, machin. Ou la meuf. Et en fait, c'est ça qui me fait bizarre sur les applications de rencontre, c'est qu'on te dit, ouais, c'est juste pour faire... Enfin, on peut penser que c'est juste pour des coups d'un soir et juste pour du sexe, mais en fait, c'est faux. Genre, t'as de l'investissement, on apprend à se connaître, on dit des trucs intimes, et après, en fait, on se rencontre et bah ça marche ou ça marche pas. Et du jour au lendemain, la personne, elle disparaît, elle repart sur son application de rencontre. Et du coup, c'est ça qui me faisait souffrir, c'est de me dire, mais en fait, je préfère rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, au moins, j'ai pas d'espoir. Et sur les applications de rencontre, il y a vraiment ce truc de faux espoir, tu projettes sur la personne, et en fait, après, derrière, tu la vois une fois, deux fois, et ça crève la relation. T'as pas cette impression aussi ?
Mais complètement, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu un peu interroger les personnes qui les utilisaient pour comprendre en fait qu'est-ce qu'elles cherchaient quand elles se connectaient sur leurs applications de rencontre. Et tu vois, enfin moi quand j'étais plus jeune, tu sais c'était le début d'AOL, etc. Enfin je sais pas si t'as connu ça, mais bon bref, c'était le début des réseaux sociaux et il y avait des forums AOL et en gros j'ai rencontré des gens via ce réseau et j'étais complètement, tu sais surtout quand t'as 14 ans, t'es en train de construire ta personnalité, t'es dans un monde un peu imaginaire. Et j'ai créé, enfin j'avais une bande de potes virtuels, des gens que je n'avais jamais vus, même pas leurs photos, puisque échanger les photos c'était pas si commun. Et bon, une personne qui est restée mon amie, qui est une très bonne amie à moi d'ailleurs toujours aujourd'hui, mais c'était marrant comme je me suis impliquée émotionnellement avec ces gens que je ne voyais pas et avec qui je chattais, tu vois. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, quand déjà t'es dans une bulle quand tu parles avec une personne, c'est comme si tu te parlais à toi parce que tu vois ce que tu écris. Tu vois, même quand tu fais une note vocale, tu peux la réécouter. Enfin, t'es toujours un peu dans, tu te définis toi, en fait, avant de vraiment rencontrer l'autre. Et je pense que ça nourrit ton narcissisme, en fait. C'est pour ça que ça peut être un peu dangereux. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont complètement addictes à ça. Elles arrivent pas à sauter le pas vraiment de la rencontre. C'est-à-dire que de vraiment, à un moment donné, évoluer avec l'autre, se rendre vulnérable et complètement lâcher prise. T'es dans le contrôle en fait quand tu parles à quelqu'un en ligne parce que tu peux t'imaginer tout et n'importe quoi, tu peux t'imaginer enfin tu la personne selon ce qu'elle dit enfin tu peux complètement, tu sais, t'as pas les intonations de voix forcément, t'as pas les expressions du visage, t'as pas l'énergie qui se transmet, enfin ton énergie elle c'est la tienne en fait, elle est c'est toi ce que tu projettes dans l'autre et c'est pour ça que voilà c'est des fantasmes en fait, c'est des fantasmes, mais il y a des gens qui dépassent pas ce stade-là. Mais moi, j'ai vraiment l'impression, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est de l'amour adolescent un peu, tu vois. C'est quand t'as besoin de te rassurer toi, de te construire. Mais ça peut être que éphémère, parce que l'amour, c'est autre chose. C'est quelque chose qui te permet de te dépasser encore plus et de, voilà, j'ai jamais vraiment compris. Enfin, moi, j'ai jamais été une personne qui était addicte tu sais, aux relations, au début de relation, c'est-à-dire, tu sais, il y a des gens qui enchaînent les débuts de relation parce qu'ils veulent toujours être dans ce shoot du début. Mais à un moment donné, quand il n'y a pas de connexion profonde, c'est le néant, en fait. T'es face, enfin, c'est juste toi qui te convainc que il y a quelque chose d'intéressant, mais en fait, c'est parce que t'es addict aux premiers instants, aux premiers émois, mais en fait, t'es pas prêt à aller plus loin que ça, quoi. Et les applications, c'est vrai que ça nourrit ce sentiment-là, et c'est pour ça que ça peut être un peu problématique, je trouve. C'est pour ça aussi que je pense que il faut pas trop discuter. Il faut plus être dans une rencontre, tu vois. Il faut se dire, ok. Pour moi, c'est difficile aussi. Je suis un peu plus comme toi. J'aime bien quand même connecter, savoir si la personne est sympathique si on peut bien s'entendre. Mais j'ai décidé que il fallait que je rencontre directement la personne. Parce que sinon, t'as trop le temps de te faire des idées qui vont être forcément fausses. Parce que tu peux pas savoir à quoi la personne ressemble vraiment. Même si c'est un super beau gosse, une super belle gosse, l'énergie, le charme, c'est quelque chose que tu vois que quand tu te rencontres.
Ouais, non, c'est pour ça que j'en viens à la conclusion de me dire que les applications de rencontre, c'est pas fait pour moi, parce que vraiment, je mets trop dedans, et je suis dépendante affective et ça ne marche pas, et j'ai toujours l'impression de donner et de rien recevoir en retour, quoi. Et
mais pourquoi t'essaierais pas justement de juste, tu vois, de d'écrire 3-4 phrases pour voir si le mec est pas trop con ou la meuf et ensuite sauter le pas, juste aller faire une balade. Après ça peut être horrible, mais ça peut être sympa, ça peut être neutre, enfin, mais tu peux, tu vois, t'as pas le temps de trop t'identifier, en fait, à la personne, et de trop t'imaginer des choses, et donc de souffrir.
Ouais, je vais peut-être faire ça, mais c'est vrai que j'adore écrire. Je sais pas, et puis, quand j'habitais à Paris, bien sûr, c'est plus facile. Quand t'habites dans une grande ville, tu peux sortir faire une balade, mais moi, à Alençon, il y a vraiment personne sur les applis. Voilà, donc du coup, à chaque fois, je fais des rencontres, mais de gens qui habitaient à Paris, enfin... Non, je sais pas trop. Quand on est dans une grande ville, oui, c'est possible. Mais quand on est dans une petite ville, franchement, de toute façon, l'intérêt de l'application de rencontre est assez limité. Parce que forcément, si tu rencontres quelqu'un, il habite à 20 km, donc on va pas pouvoir se voir. Ouais, je sais vraiment pas quoi faire de tout ça. L'autre jour, je me disais, ah, j'ai envie de parler, j'ai envie de draguer, j'ai envie de faire... Parce qu'on peut aussi faire du sexe à distance, juste, tu vois, s'appeler au téléphone et tout, faire un Skype. J'ai juste envie de qu'il se passe quelque chose dans ma chatte, tu vois, ou dans mon cœur. Et après, je me dis, non, je vais souffrir.
Bah, après, tu peux le faire d'une manière un peu plus chill, c'est-à-dire ne pas, tu vois, te connecter, voir ce qui se passe, discuter éventuellement. Voilà, c'est toujours une question d'équilibre, en fait. Enfin, je pense qu'il faut... C'est sûr que t'as des choses que tu contrôles pas forcément, des émotions qui viennent, mais on est dans une période un peu difficile, en fait, pour rencontrer des gens en dehors des applications, des réseaux sociaux. Peut-être directement, tu sais, demander à ce que à FaceTimer ou j'en sais rien, tu vois. Tu sais, ou à faire un Zoom ou j'en sais rien, une vidéo Mais pourquoi pas, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui font ça. Enfin, je suis dans des forums de nana de Berlin, là, genre International Girls Dating App, je sais pas quoi. Et c'est drôle parce qu'elles racontent leurs histoires de dating pendant le confinement sur les applications de rencontres. Et il y en a beaucoup qui disent qu'elles font ça, en fait. Elles se connectent ils se font des dates virtuelles. Et déjà, tu vois, tu as une idée de déjà, tu prends pas de risque. Et puis au pire, si c'est nul, bah tu raccroches, tu vois. Enfin, c'est encore plus simple que juste dire bon bye ou inventer une excuse quand t'es dans un café ou quoi. Et tu vois la personne déjà, ses expressions, comment elle interagit. Pourquoi pas, tu vois. Tu pourrais faire ça sans y mettre trop d'attente. Mais tu vois, si t'as des besoins, pourquoi pas.
Ouais. Non, mais c'est possible. Après, ouais, comme je suis vraiment fragile et que j'ai vraiment... J'essaie de me protéger, tu vois, genre vraiment de... Je sais que ça peut déraper en 2 secondes. Je peux me faire des films et tout. Genre vraiment, je projette trop. Et c'est pour ça que la rencontre offline, c'est vraiment mieux pour moi, parce que du coup, je peux pas projeter trop sur la personne en face. C'est possible aussi. Mais les pires fois où j'étais dépendante affective et où j'ai fait n'importe quoi, c'était sur les applications de rencontre, quoi. Donc j'espère qu'on va pouvoir rencontrer des gens au bout d'un moment, et puis on peut toujours en rencontrer, c'est juste différent, quoi. Et du coup, voilà, ça arrive à ma conclusion, parce que ça fait quand même longtemps qu'on parle, mais j'insiste vraiment sur d'autres formes, en fait, d'amour, de relations. C'est vraiment important pour moi de me dire que certes, les applications rencontres, c'est pas fait pour se faire des amis, mais pourquoi on pourrait pas se dire, bah, ce mec ou cette personne n'est pas faite pour moi, mais en fait, sexuellement, mais en fait, je l'aime bien, donc on va devenir potes. Ou pourquoi on pourrait pas penser à des relations plus ouvertes, non exclusives, le polyamour. Enfin, je trouve que les applications rencontres, ça permet en fait d'inventer des nouvelles formes de relations. Et que moi, je m'enferme et que beaucoup de gens s'enferment dans le... Enfin, en fait, tout dépend de ce qu'on en fait. Et je m'enferme dans des schémas de dépendance affective, de trucs hétéro pourris. Alors qu'en fait, c'est vraiment un milliard de possibilités. Et même ton histoire avec le tatoueur, en fait, ça prouve que... Bah, tu vois, quand il y a un mec sur OkCupid qui met pas sa photo, bah moi, je vais pas le matcher. Enfin, tu vois, ça prouve qu'en fait, c'est... Tu peux pas prévoir tout ça. Et les applications de rencontre, ça pourrait juste nous permettre... De nous ouvrir à d'autres personnes et pourtant on fait l'inverse. Enfin voilà, c'était ça ma conclusion. C'est à moitié optimiste et à moitié pessimiste. Je sais pas si t'as une conclusion.
Ah oui, non, mais complètement. Je te rejoins absolument sur ce point-là. Et d'ailleurs, j'avais interviewé une personne, Lucille, qui a rencontré son copain alors qu'il avait pas mis de photo. Il avait un faux profil, c'est-à-dire qu'il avait un profil de blague. Où il avait mis une photo de Dark Vador et il avait complètement déliré sur sa bio. Et elle est un peu geek sur les bords aussi, donc elle avait matché et elle, juste pour délirer, en fait, ils ont commencé à triper de ouf. Mais pas du tout, ils sont pas rentrés dans ce truc classique. Alors, qu'est-ce que tu recherches? Comment tu t'appelles? C'est quoi tes passions dans la vie? Non, ils sont mis complètement, ils ont fait un jeu de rôle en fait. Et c'est tout. Et en fait, ils ont dit bon bah aussi on se rencontrait. Et donc elle disait clairement le mec, je ne savais pas à quoi il ressemblait. Il y avait que lui qui savait à quoi je ressemblais, donc peut-être que c'était un énorme, enfin que ça allait être un gros moche, ou on n'allait pas du tout se plaire, ou voilà. Et finalement, en fait, c'était un mec très mignon. Et tu vois, encore une fois, pas d'attente, et ça a fonctionné. Pareil avec Léo. Et lui, il me disait, moi, quand j'étais sur les apps normal, tu vois, en mode pour dater, mais j'avais jamais de match. Et moi, j'aurais certainement pas matché avec lui. Je te le dis, j'aurais pas matché avec lui. Et donc du coup, je pense qu'il faut se libérer un peu de tout ça. Et limite, faudrait qu'on fasse des applications sans photo. Juste, mais c'est difficile hein, parce que du coup, t'as l'impression de pas être dans le contrôle. Tu te dis ah non, si la personne elle est trop moche, elle a honte. Enfin, je sais pas, je vais me sentir mal à l'aise. Mais je pense qu'il faut il faut qu'on se libère de tout ça. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure sur pourquoi pas rencontrer même des amis. J'ai une copine qui m'a parlé d'une application. Elle est enceinte à Londres et elle est seule. Elle a personne. Elle connaît pas de personnes autour d'elle, de femmes autour d'elle qui sont enceintes. Et il y a une application qui permet dans les grandes villes notamment de se faire rencontrer les femmes enceintes pour pouvoir, tu sais, discuter de tes expériences, etc. Donc tu vois, il y a des nouvelles formes d'applications de rencontres qui se créent. Et tant mieux. Et il faut qu'on se libère en fait de ça en fait. Et je pense que c'est aussi ton podcast, c'est par rapport aux injonctions à être en couple. Pourquoi toujours vouloir rechercher absolument une relation pour te sécuriser, etc. Tu vois, pourquoi pas explorer différentes formes. Je sais que à Berlin surtout, bon, tu t'imagines que t'as toutes les formes de relations possibles et inimaginables. Un profil sur deux, c'est des open relationships. Enfin, c'est des gens qui sont en couple ouvert, machin. Donc bon, après moi je questionne un peu aussi. C'est ça parce que ça prend du temps comme tu disais là sur les applications. Et si t'es déjà en couple et que en plus tu recherches d'autres personnes sur les applications, bah putain, t'as vraiment que ça à faire quoi. Enfin, toute ta vie est concentrée sur les relations, mais pourquoi pas, tu vois. Pour moi c'est une thématique aussi avec Léo du coup, la monogamie, enfin est-ce qu'on est monogame ou pas, tu vois, parce que finalement on a tous les deux toujours été dans des relations typiquement hétéro, normées, monogames, de fidélité, etc. On a tous les deux, je pense, vécu, enfin on a trompé, été trompé, donc à un moment donné on se dit bah écoute, on s'aime, on se respecte. Pourquoi on devrait s'empêcher de vivre des choses avec d'autres personnes si ça arrive, tu vois, pas forcément les provoquer, pas être toujours dans cette recherche de la conquête et de la séduction, mais si t'as une connexion à un moment donné avec une personne qui soit sexuelle, émotionnelle, pourquoi pas en fait. Mais bon, tu vois, ça me challenge, moi aussi je suis hyper possessive, je suis jalouse, ça me pose problème, mais intellectuellement j'y réfléchis et on y réfléchit ensemble et voilà. Alors après, est-ce que les applications c'est un moyen de vivre ça, ou peut-être faire d'autres choses avec d'autres personnes. Ouais, j'ai aussi des amis qui sont avec qui j'ai eu un couple d'amis, avec qui j'ai eu une histoire, une petite histoire, qui maintenant ont une histoire avec un autre couple. Et qui sont dans un pur polyamour de couple. Enfin, c'est incroyable. Mais moi, ça me fascine. D'ailleurs, je pense que je vais faire un épisode là-dessus. Parce que c'est hyper intéressant et ça challenge, en fait, toutes nos idées, en fait, sur le couple, sur qu'est-ce que, parce que qu'est-ce que c'est le couple, en fait? C'est quelque chose qui te donne l'illusion de te sécuriser, en fait. D'avoir toujours quelqu'un qui est là pour toi, qui te supporte, mais cette personne, même si c'est un amour génial, la personne peut aussi arrêter de t'aimer, mourir. Enfin, c'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai, tu vois. Tu peux perdre une personne du jour au lendemain, donc tu peux pas mettre toute ta vie entre les mains d'une personne. C'est pas possible. Et donc du coup, voilà, il faut apprendre à, comme tu dis, chercher l'amour partout. Voilà, c'est ma conclusion.
Merci Anissa. Pour finir l'épisode, je vais mettre dans la description les deux vidéos YouTube que j'ai faites sur le sujet des relations hétéro toxiques. Donc la première vidéo s'appelle « Ma première sextape ». C'est pas une sextape, hein, mais ça parle des relations, de mes relations avec des mecs sur les applications de rencontres, de dépendance affective, de violence psychologique de la part de ces mecs. Et la deuxième vidéo, qui s'appelle « Ma seconde sextape », c'est plus sur le côté sexuel de ces relations, de déception, du mauvais sexe, vraiment de mes attentes beaucoup trop hautes pour ces messieurs. Donc voilà, je vous conseille de regarder les vidéos YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'elles sont assez drôles. Pour écouter Homo Swipiens, je vais aussi mettre la description dans la description de l'épisode le lien du podcast d'Anissa. Une dizaine d'épisodes sont déjà en ligne et je te conseille particulièrement celui avec Louisa, publié en juin 2020. Louisa, tu sais, c'est la personne avec qui j'ai joué au bingo des célibataires dans l'épisode 3 de Sologamy. Louisa, c'est aussi la personne derrière le podcast Single Jungle. Bref, Louisa est aussi passée dans Homo Swipiens et l'épisode est très fort, je te le surconseille. En attendant, si tu as aimé cet épisode crossover spécial Tinder et spécial Saint-Valentin, je t'invite à mettre 5 étoiles à nos deux podcasts Sologamy et Homo Swipiens sur ton application de podcast préférée. Tu peux aussi le partager avec tes proches, ce serait super en ce magnifique 14 février. Merci et au mois prochain, je reviens le premier mardi de mars avec un ou une nouvelle invitée. Célibataire, surprise, si tu veux participer à Sologamy, toi, écris-moi, je le répète, n'importe qui peut participer à ce podcast. Il faut juste te définir comme célibataire, quelle que soit ta définition. Merci et bonne Saint-Valentin et surtout si tu es seule comme moi. Amuse-toi bien. Salut Anissa.
Au revoir Marie, merci. Just like the water, falling from the sky.